Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Odo Sport Show. Enfin, c'est une émission un petit peu particulière où on va mixer un peu les deux avec de l'actualité sportive et handicap dans cette émission. Je remercie Nicolas de m'accompagner aujourd'hui. Bon, merci encore Nico d'être avec moi à la technique. Il fait le zouave, mais tout va bien dans la maison Odo Radio. Guy est en repos avant une grosse émission. Dans 15 jours, on vous en parlera en fin d'émission, de l'émission du 21 juillet prochain. Le temps pour moi de vous dire que dans quelques instants maintenant, nous allons avoir Laurent Brun, président de Médoc Océan Football, mais également de l'Amicale des présidents de Gironde, mais aussi suiveur des Girondins de Bordeaux et ancien journaliste à Sud-Ouest. Et également Roland Bécaille, peut-être une surprise en fin d'émission. À noter que nous allons vous donner, avec Nicolas, plusieurs informations dans le monde du handicap et aussi sur ce qui se passera sur l'antenne d'Odo Radio le 21 juillet. Alors Nicolas est en train de composer le numéro, c'est les aléas du direct. J'espère que notre ami Laurent va nous répondre. Oui, il est en ligne avec Nicolas. Nous allons donc l'avoir d'ici quelques instants. Rappel pour moi, pour vous dire que c'est donc le président de Médoc Océan et il a plein d'autres casquettes. Vous allez l'entendre pendant une vingtaine de minutes sur notre antenne. Laurent, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que Laurent est avec nous? Je n'entends pas Laurent. Je n'entends pas Laurent. Donc on va le rappeler. Les aléas du direct. Le temps pour moi, donc je peux d'ores et déjà vous le dire, vu que mardi prochain... Est-ce que Laurent est avec nous? Est-ce que Laurent est avec nous? Je n'entends pas Laurent. Je n'entends pas Laurent. Donc on va le rappeler. Le temps pour moi donc de vous dire que le 21 juillet, ça sera une émission spéciale parce que ça sera donc la dernière de la saison. Guy sera avec moi. Je pense que Joël également sera avec moi. Nico, qui est derrière à la technique, sera avec moi également parce que vous n'êtes pas sans savoir, hein, j'en parle depuis quelques semaines. Ça sera ma dernière sur O2 Radio. Et donc, on vous expliquera d'ici quelques instants, d'ici quelques minutes, avec Nicolas, le déroulé de cette émission spéciale. On va essayer d'avoir Laurent d'ici quelques instants. Laurent est avec nous? Est-ce que Laurent est avec nous? Je n'entends pas Laurent. Allô Laurent?
Oui.
Oui Laurent, là je t'entends. Bonjour Laurent, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment tu vas d'abord pour commencer? Je n'entends plus Laurent. Je n'entends plus Laurent. Donc je pense qu'on a un problème technique. Et là en plus il a raccroché. Donc je vais peut-être le faire directement sur mon téléphone. Où on va essayer de le rappeler une énième fois. On va y arriver, hein, de toute façon. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que, bon, du temps que Nico refasse la manipulation, donc Laurent, comme je vous l'ai expliqué, a plusieurs casquettes. Hein, il est donc président de Médoc Océan. Mais il est aussi président de l'Amicale des présidents de Gironde. Et puis aussi ancien suiveur des Girondins de Bordeaux. Alors voilà, on espère l'avoir avec nous d'ici quelques instants. Est-ce que Laurent nous entend? Est-ce que Laurent nous entend? Je crois qu'il ne nous entend pas.
Allô?
Allô, Laurent?
Oui, bonjour.
Ah, là, c'est mieux, on t'entend. Est-ce que tu es toujours avec nous?
Oui, toujours, oui.
Parfait, merci
Je ne
Laurent.
coupe pas, c'est bon.
Merci
Avec plaisir.
Laurent d'être avec nous. Comme je l'expliquais avant de t'avoir, Laurent, tu as plusieurs casquettes. Tu es à la fois coprésident de Médoc Océan. Tu fais aussi partie de l'Amicale des présidents de Gironde. Tu m'arrêtes si je me
Oui.
trompe. Et tu suis toujours avec assiduité, je crois, l'actualité des Girondins de Bordeaux.
Tout à fait, tout à fait. Je n'ennuie pas.
Effectivement, pour les gens qui te connaissent, je sais que tu t'ennuies pas. Alors Laurent, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de l'actualité de ton club Médoc Océan où tu es coprésident? Comment s'est passée la
Oui.
saison et
Alors,
comment va se dérouler la
c'est le
prochaine?
football club Médoc Océan Lacanau Carcan. C'est
D'accord.
issu de la fusion de l'AS Lacanau et l'US Carcan en 2001. Ça fait 25 ans cette année que le club existe. L'équipe première évolue en régional 3, l'équipe réserve en départemental 3. Elle vient d'acquérir sur le terrain la montée en départemental 2. Et l'équipe première a terminé troisième du championnat régional 3 de la poule. C'est une belle saison avec un bon état d'esprit, avec des municipalités respectives qui nous suivent aussi, avec une école de foot qui tourne et qui est aussi en partenariat avec l'US Le Temple Le Porche. Voilà, c'est un club côtier face à l'Atlantique. Et voilà, non, c'est agréable de s'occuper de ce club-là. Moi, c'est mon club, hein, de toute façon, je suis de Lacanau. Donc voilà, on est deux coprésidents, Philippe Prévera côté Carcan et puis moi-même côté Lacanau. Voilà, là, on repart sur une nouvelle saison dans pas longtemps, toujours en Régional 3 pour l'équipe A, avec de nouveaux joueurs, avec un mélange de jeunes et d'anciens très intéressant, avec aussi beaucoup de bénévoles au niveau de l'encadrement des jeunes, puisqu'on est tous bénévoles, et puis deux coachs aussi en équipe A et B accompagnés, enfin, qui sont en tandem cette année, dont un nouvel entraîneur pour l'équipe Fagnon, qui s'appelle David Merlin, qui vient de rejoindre l'aventure. Voilà, donc il nous tarde de reprendre, même si je vous cache pas que ça fait du bien de souffler un peu là sur le mois de juillet, même si on finit une saison, on est déjà dans l'autre, hein. Mais voilà, non, ça se passe bien, il fait beau, il fait chaud, et on a un climat convivial et familial dans ce club. On est très content, même si on reste perfectible, pardon, on est content de l'évolution du club. On tourne à peu près à 250 licenciés, tout confondu, avec des équipes féminines seniors en loisirs, des vétérans, enfin voilà, des jeunes, des moins jeunes, voilà.
Alors, moi, la première question, avant de revenir sur les équipes Fagnon et les seniors, tu parlais d'entente au niveau des jeunes, comment ça se passe?
Ouais, c'est un peu dommage qu'on en soit rendu là, mais c'est important qu'on puisse s'entendre avec les clubs voisins, parce que sinon, on n'y arrive pas. Il faut aussi savoir que aujourd'hui, on est dans un, comment dire, dans un mood de consommation. Alors, je parle pas que du football, hein, je parle de la vie en général et des sports en général. Donc, on a aussi beaucoup d'activités à la Cano, à Carcan, au Porche. Ça, c'est très bien. On a un tissu associatif et culturel qui est très large, avec une centaine d'associations à la Cano, une quarantaine d'associations de sport et puis 7 ou 8 de sport collectif. Donc forcément, les enfants tournent. Alors c'est une vraie richesse, c'est génial, on peut s'initier à plein de sports, mais c'est beaucoup plus dur quand il faut pérenniser dans une catégorie, et chaque année on repart presque une copie blanche, où c'est compliqué d'avoir des équipes à 11 en jeunes, à partir de U15, quoi. Donc on a besoin de s'entendre avec les clubs à côté pour pouvoir proposer à nos enfants, garçons, filles, de pouvoir pratiquer leur sport avec de magnifiques infrastructures, hein. Comme je disais, on est très suivi par les municipalités respectives. On a deux terrains en herbe naturelle à la Cano, deux terrains en herbe naturelle à Carcan, deux salles des sports à la Cano, une à Carcan, un terrain synthétique à 8 contre 8 à la Cano. S'il fait trop chaud, on va s'entraîner à la plage. Enfin, c'est génial. On a tout ce qu'il faut, vraiment. Mais si on n'arrive pas à s'entendre avec les clubs alentours, eh ben, on perd des licenciés, les enfants ou carrettes ou qui changent de sport. Donc le but, c'est quand même de leur permettre de pratiquer, de leur permettre de prendre du plaisir et puis d'évoluer au sein d'une structure, de petit jusqu'à grand, quoi. Voilà.
Justement, par rapport à votre structure, on parle souvent de structuration de club. Comment ça se passe au niveau des éducateurs? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'éducateurs diplômés. Je voudrais avoir ton avis
Ouais.
là-dessus.
Alors nous, ils sont pas tous diplômés, on est tout à fait, avec le comité directeur du club, le bureau, enclin à faire passer des formations à nos éducateurs. Donc certains le font, bien sûr, mais on peut pas avoir tout le temps des éducateurs diplômés, parce que c'est pas que ça coûte cher, ça c'est pas tellement le problème, on peut y arriver, on peut faire passer des diplômes en faisant des formations morcelées. On n'est pas obligé de tout enchaîner d'un coup, mais ça dépend aussi de la disponibilité des éducateurs. Nous, ils sont tous bénévoles chez nous, tous bénévoles. Donc voilà, on tire quand même sur la corde. On les sollicite et je les sollicite avec mon coprésident presque 11 mois sur 12. Donc on les récompense aussi pour les plus jeunes qui peuvent s'investir au niveau des diplômes à passer. Donc on est tout à fait pour, mais c'est pas si facile tout le temps. Et puis voilà, le but, c'est si vous formez un éducateur aussi, vous faites passer le diplôme, vous financez, le but, c'est qu'il reste chez vous, qu'il s'en aille pas avec le diplôme dans un autre club 2 ans après, quoi. Voilà. Mais on est pour, hein, on fait tout ce qu'il faut pour, on essaie aussi de trouver des arbitres, ce qui est très très difficile. Aujourd'hui, on essaie de former des jeunes arbitres, mais il y a des contraintes. Le district à ce nom est très très bien, c'est une belle structure, mais c'est un peu loin de chez nous et pour la demi-pension, c'est pas facile. Oui. Donc voilà, on fait comme on peut, du mieux possible, avec de la bonne volonté.
Justement, tu me fais une passe décisive, Laurent. Dans 15 jours, pour la dernière de l'année, nous allons avoir sur le plateau François René et Alexandre Gougnard, que tu connais. Si tu avais deux questions à leur poser, je leur glisserai lors de cette émission.
Alors c'est très gentil, je les vois assez souvent quand même, ou les ai au téléphone, mais non, qui continuent à nous accompagner comme ils le font. Alors après, on est sur des vastes territoires, hein, parce que le district de football de Gironde, il est immense, hein, je crois que c'est le plus grand de France, donc Alexandre et ses équipes ont beaucoup, beaucoup de choses à gérer dans différents clubs, et on a à peu près dans tous les clubs, hein, quels que soient les budgets de fonctionnement, quel que soit le nombre de licenciés, on a à peu près les mêmes problématiques à 80%, et tu parlais tout à l'heure de l'association, l'amicale des présidents de clubs de foot de Gironde dont je fais partie. On essaie un petit peu de centraliser tout ça et de travailler avec les instances, donc c'est pour ça que je dis je les vois beaucoup, et François Grenet gère aussi avec ses équipes la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, qui je crois est la plus grande de France aussi, qui est équivalente en superficie à l'Autriche, hein, quand même. Oui. Donc c'est pas facile, mais ils se sont quand même rapprochés des clubs. Les deux instances on travaillait pas toujours d'accord, hein, mais le but c'est d'arriver à un compromis et de trouver des solutions bénéfiques pour que nos enfants, nos plus grands, nos plus anciens et dans tous les sports diversifiés aussi puissent s'exprimer, s'épanouir. Voilà, on travaille pour justement améliorer le quotidien et chaque semaine proposer des choses intéressantes, les pérenniser aussi ou proposer de nouvelles choses à nos licenciés. Et voilà, s'il y a aussi des relais sur les terrains, et franchement, avec les équipes du district et de la Ligue, on arrive quand même à fonctionner. Alors j'ai pas de questions précises, sachant que on a pu déjà échanger, on a eu l'Assemblée Générale du district il n'y a pas très longtemps, l'Assemblée Générale de la Ligue d'Aquitaine aussi il y a 2 semaines, c'est à Bergerac, donc on est... Voilà, je suis content en tout cas que les instances se rapprochent du terrain, de la base. Ça paraît un petit peu comme ça bizarre de dire ça, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc c'est très bien. Et puis voilà, on est aussi content que les Girondins de Bordeaux, et puis depuis 2-3 ans, eux aussi se rapprochaient de la base, parce que même si c'est plus forcément la locomotive de la Nouvelle-Aquitaine, ça reste quand même le club phare du coin. Donc c'est bien, on travaille dans le bon sens, même s'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire.
T'inquiète pas Laurent, les Girondins sera le dernier chapitre de notre entretien. Je pense que tu auras des choses à dire. Avant de passer à la deuxième partie de l'entretien, ton avis du coup sur la saison de tes seniors et les objectifs futurs?
Ben nous, l'objectif qu'on s'était fixé, c'était de faire une belle saison en Régional 3 avec l'équipe Fagnon, à savoir terminer dans les 5 premiers. Alors ben, l'objectif, il est atteint. On a changé d'entraîneur, mais le mérite aussi, on revient à Gérard Fontenay, qui était le coach l'année dernière de cette équipe, qui a fait du bon travail. Donc l'objectif pour cette équipe-là, ben, c'est de faire au moins aussi bien. Après, en Régional 3, on est là où on doit être avec notre club. Hein, je veux dire, ça nous empêche pas d'avoir de l'ambition. Si on peut gratter une place en R2, en Régional 2, on le fera. Mais je pense qu'on est là où on doit être. Voilà, moi, les joueurs viennent par camaraderie, et pour l'esprit familial dont je parlais. Il n'y a pas d'argent dans le club. Hein, donc, je critique pas d'ailleurs les clubs dans lesquels il y en a. Hein, mais nous, c'est une volonté. On préfère voilà offrir un beau week-end à l'étranger au groupe senior global à la fin de l'année. Ils s'éclatent, ils s'en vont en Espagne faire 3 jours, et puis voilà, ça marche comme ça. Donc l'idée, ben, c'est de faire au moins la même saison, qui est quand même la meilleure saison depuis des années, hein, qu'on vient de vivre. Et puis pour le groupe B, le groupe 2 qui était en départemental 3, l'objectif était de monter en départemental 2. Il a été atteint, donc bravo aussi au binôme que nous avions, Christophe De Jésus et Florent Gravier, qui étaient... qui ont travaillé ensemble, qui ont fait monter ce groupe, qui a connu une seule défaite dans la saison. Voilà, donc si je ne me trompe pas, toute compétition confondue. Donc c'est super, et ben on va demander au moins le maintien. Voilà, en départemental 2 pour la première année, on verra. Et puis, vous savez, après, l'appétit vient en mangeant. Hein. Si on voit qu'au fur et à mesure de la saison, on peut gratter, on fait. Hein. Voilà, mais faut rester humble, déterminé, ambitieux, mais sans oublier l'humilité quand même.
Justement, Laurent, tu parlais de club famille, tout ça. Il y a beaucoup de joueurs issus des deux clubs, c'est-à-dire de Carcan et Nakano, ou il y a quand même des joueurs d'extérieur qui viennent?
Alors, il y a beaucoup, effectivement. On a aussi des joueurs de l'extérieur. On a pas mal de joueurs du Médoc, parce que faut savoir que je parlais de la façade atlantique. On a aussi nos voisins de Médoc Atlantique.
Exactement.
C'est-à-dire Naujac, Soulac, Lespard, qui sont un club encore plus fourni que nous, parce qu'ils ont une zone géographique à courir encore plus large. Donc bon, on est bien, on s'entend bien. Voilà. Après, voilà, je vous dis, c'est difficile. Il faut vraiment bosser. Il faut, voilà, on a ces infrastructures-là, ce cadre-là à offrir. Alors c'est vrai que quand il fait nuit, quand il fait noir l'hiver, c'est pas facile. De Bordeaux, on a quelques joueurs qui viennent de Bordeaux ou de la banlieue bordelaise. On privilégie aussi le covoiturage. On est aussi très très engagé dans la transition écologique. Ce sont d'ailleurs des items que les mairies respectives nous demandent de mettre à l'œuvre et de respecter. Donc on le fait. Donc le covoiturage, ça fait partie aussi des choses que l'on prône et auxquelles on adhère. Donc oui, on a quelques joueurs qui sont sur Bordeaux, mais c'est pas facile. Si vous êtes rive droite et que vous voulez venir jouer à Médoc Océan, faut vous armer de patience, parce qu'il vous faut 1h30 pour venir, quoi. Donc minimum. Donc c'est pareil pour Médoc Atlantique, sauf qu'il y a aussi la possibilité du train, que nous n'avons pas à Lacanau ni à Carcan.
Oui.
Mais voilà, on a quand même des joueurs du coin, on a quelques joueurs du bassin aussi. Après on a l'Esch Cap-Ferré qui est pas très loin et qui on s'entend bien aussi de l'autre côté. Voilà, après chacun se tire la bourre, si vous me permettez l'expression, sportivement,
oui, oui.
Même si évidemment l'Esch n'est pas dans la même catégorie que nous et Médoc Atlantique est en Régional 2 aussi, donc on n'est pas concurrent direct dans les mêmes championnats, mais enfin on échange beaucoup aussi avec les dirigeants, les présidents, et voilà, on essaie d'avoir quand même un ancrage local. Après, rien n'interdit aux copains du copain de venir, s'il habite en périphérie proche de Bordeaux, du côté ouest, c'est plus pratique. S'il est à Bordeaux centre ou l'autre côté de la Garonne, c'est un peu plus difficile, mais enfin bon, on y arrive quand même, et puis voilà, c'est très convivial, c'est très festif aussi, quoi.
Ok, mais écoute, deuxième partie de notre entretien, tu l'as évoqué tout à l'heure, tu fais partie de l'amicale des présidents de Gironde. Peux-tu nous expliquer qui est à l'initiative de ce projet et pourquoi?
Alors, il y a un bureau qui est composé évidemment de plusieurs personnes. Il y a une tête, c'est-à-dire trois coprésidents, qui sont Ilidio Ferreira, qui est le président de l'US Buscatese.
Que je connais très bien.
Voilà, Samir Zolota, qui est coprésident de FC Saint-Médard-en-Jalles, et puis Christophe Champeau du FC des Graves aussi. Voilà, et puis on a Julien Paulet, qui est président de Martignac-Illac en comptabilité, et puis moi je suis en trésorerie, et moi je suis secrétaire de l'amicale. On a plein d'autres personnes qui nous aident aussi au niveau du bureau. On s'est dit que voilà, il y avait quand même des choses peut-être à faire remonter. On s'aperçoit en discutant un peu que finalement, quand le district a la gentillesse de nous inviter sur des réunions ou sur aussi des assemblées générales, on se connaît un peu de vue, mais finalement pas tant que ça, quoi. Donc on s'est dit c'est un peu dommage de pas échanger entre présidents en dehors de ces moments-là. Et l'idée est née, en fait, de se dire, ben voilà, on peut peut-être essayer de créer un petit peu plus de liens entre présidents et donc forcément entre clubs. D'abord, on se connaît, on partage, on fait connaissance, premier item. Ensuite, on partage des moments sportifs, comme je disais, on lâche rien sur le terrain, mais ça nous empêche pas de se boire un café, un coca ou une bière entre présidents, de bien accueillir aussi les gens. Et de se dire que ben, peut-être qu'on a des problématiques communes, peut-être qu'on en a des complètement différentes, et pourquoi pas s'écouter, les étudier, et se dire, ben voilà, on voit, on fait un petit audit, un petit diagnostic, comme ça, entre nous, on crée peut-être cette amicale pour voir ce que ça donne. Une fois qu'on crée l'amicale, avant de déposer les statuts en préfecture, on fait des réunions de secteur en allant à la rencontre des clubs. Alors certains clubs nous ont accueillis chez eux, et j'en profite encore pour les remercier, partout dans la Gironde, à tous les niveaux, sur le bassin, dans le Médoc, dans le Blayais, à Bordeaux, Sauternes et Graves, enfin voilà, partout, j'en oublie sûrement. Et on s'est aperçu que ben, y avait quand même des choses qui allaient bien, parce qu'il faut le dire aussi, et d'autres qui pouvaient aller un petit peu mieux en faisant pas beaucoup d'efforts, et d'autres qui allaient pas du tout. Voilà, et savoir pourquoi ça va pas du tout. Alors pourquoi ça va bien, c'est important aussi, mais savoir pourquoi ça va pas du tout et que pouvons-nous faire chacun et nos moyens respectifs pour que ça aille mieux. Donc concertation, voilà, être une force de proposition aussi aux instances, j'en parlais tout à l'heure. Le but c'est pas d'arriver en frontal face aux instances, c'est pas le but, on en a rien à foutre de ça. Le but c'est de dire ben voilà, le district, la ligue font aussi des sondages, des enquêtes, voilà. Mais nous, on est peut-être un petit peu plus près des clubs. On a mis un pied dedans sur le terrain et on voit que ben voilà, il y a des problématiques communes qui sont des problématiques aussi des fois d'infrastructure que moi, par exemple, j'ai pas à Médoc-Océan, puisque comme je vous disais, on est très bien lotis. Mais par contre, ben un club qui est pas très loin, vous avez vu quand même les aléas climatiques, ça change. Là, on est presque sous 40 degrés, mais enfin, on a de plus en plus d'eau aussi. Hein. L'hiver, l'automne, au printemps, ben on a plein de rencontres qui sont reportées en district ou en ligue, et se dire ben pourquoi pas mutualiser des moyens, pourquoi pas prêter des terrains, bien sûr il faut l'accord des municipalités respectives, mais pourquoi pas prêter des terrains à des clubs aussi qui sont pas forcément à côté, mais pas forcément loin. Finalement on se connaît pas, on connaissait pas les dirigeants, maintenant on se connaît, on s'appelle. Est-ce que tu penses que ta municipalité pourrait nous prêter le terrain pour jouer cette rencontre qui est importante parce que nous on peut pas, on a de la boue, machin, etc. Et puis voilà, ça c'est un exemple. Hein. Et mutualiser des moyens aussi, peut-être aller se rendre covoiturer, maintenant qu'on se connaît, pour aller, je parlais de la réunion, l'Assemblée Générale annuelle de la Ligue d'Aquitaine à Bergerac, on a covoituré, c'est bien à tous les niveaux. Donc voilà, c'est une force de proposition, c'est une force de réflexion, de concertation, et arriver sur du concret, et du coup, on a créé officiellement, on a déposé les statuts en préfecture, voilà, de la PC33, hein, l'amicale des présidents de clubs de foot de Gironde, et c'est bien, voilà, on ne sait pas où ça nous mènera, mais en tout cas, pour l'instant, ça part bien, on a des gens dynamiques, qui sont des gens aussi très très compétents. On est bénévole, hein, bien sûr, je précise encore, donc ça fait un peu plus de temps à passer. Mais voilà, on a senti des clubs qui étaient vraiment contents aussi de nous recevoir. Alors, il y en a encore qui se disent, tiens, qu'est-ce que c'est ce truc, je me sens pas concerné. Donc on a du travail sur le terrain à faire encore pour se faire connaître. Mais on avance à grands pas et le but c'est d'adhérer et puis qu'on puisse être plus fort ensemble, hein, parce que c'est quand même le credo principal, un, se connaître, deux, être plus fort ensemble, et trois, permettre que tout le monde puisse pratiquer et faire pratiquer dans de bonnes conditions.
Deux dernières questions sur ce sujet-là. Aujourd'hui, vous êtes combien maintenant en termes de gens qui vous ont rejoint ? Et tu parlais tout à l'heure de François Grenet et d'Alexandre Gougnard. Oui. Ça a bien été accueilli au départ ?
Alors, pour la première question, j'ai pas encore vu exactement là les chiffres, mais on avait quand même, on a eu déjà près de 80 clubs représentés, et ça peut paraître peu sur le nombre de clubs global, mais c'est vraiment beaucoup, et les réunions, on a fait des réunions qui étaient vraiment instructives et avec des gens qui sont venus. Après, on englobe tout le monde, hein. Les présidents de clubs, c'est aussi les présidents de foot entreprise, de futsal, de beach, voilà. Peut-être que ces catégories-là se sentent pas encore concernées par notre message. C'est pour ça que je disais il y a quelques minutes qu'on a encore du travail à faire au niveau de la promotion. On n'a rien à vendre, hein, à part faire une cotisation comme toutes les associations, hein, pour le bon fonctionnement de la structure, mais on n'a rien à vendre. Peut-être qu'on a encore du chemin à parcourir pour se faire connaître. Donc on n'a pas encore capté cette population-là, mais ouais, je pense qu'on est à 80-90 clubs déjà adhérents. Et ça, c'est bien pour nous, parce que ça a été. Ça fait pas un an, hein. On a fait notre première réunion notre pré-réunion en octobre dernier. Donc si vous voulez, on a quand même fait du chemin. Donc ça c'est bien. Et après, alors il faudrait poser la question à Alexandre et à François pour savoir comment ils ont vécu la chose. Mais au début, je pense qu'ils devaient se dire bon, c'est peut-être pas la première fois qu'il y a une initiative comme ça qui est menée, mais en tout cas aujourd'hui elle est concrète. Peut-être qu'ils se sont dit c'est quoi cette histoire, c'est un contre-pouvoir, qu'est-ce qu'ils nous veulent, est-ce qu'il y a des visées politiques derrière? Non, c'est pas ça. Après, chacun est libre de partir en politique s'il le souhaite plus tard, mais non, c'est pas ça. Donc on a c'était intéressant au départ, bon, mais je pense qu'ils se posaient la question. Alexandre et François nous ont reçus, on a quand même pu aussi réfléchir à pas mal de choses déjà dans des réunions organisées, notamment au district, sur l'élaboration des calendriers de jeunes et seniors pour la saison prochaine, parce qu'on a quand même on a des aberrations sur des calendriers, on a des journées de rattrapage qui sont pas toujours bien positionnées. Je l'ai dit, hein, il va y avoir de plus en plus d'intempéries, donc il faut, alors j'ai rien inventé, hein, tout le monde est conscient de ça, hein, dans les instances, il faut anticiper, et on s'est retrouvé avec des journées de championnat jeunes ou seniors sur des tournois, des journées de tournois, par exemple à Pentecôte ou au 8 mai, au 1er mai, qui plombent la vie des clubs, en fait.
Oui.
Parce que quand vous organisez un tournoi de jeunes, vous le faites d'abord pour que les jeunes puissent s'amuser, prendre du plaisir, mais aussi pour rentrer quelques finances, parce que quand vous vendez des sandwichs, des sodas, etc., ça vous fait vivre le club aussi. Donc, quand vous positionnez des journées de championnat ou de rattrapage sur ces moments-là, c'est très très compliqué. Nous, je vois, ça fait 2 ans à Médoc-Océan, on avait des équipes de Paris sur Pentecôte. Pentecôte, il y a 3 jours. Vous faites le tournoi le samedi et le dimanche, et il y a plein de clubs qui sont dans notre cas. Et puis les équipes qui viennent de loin peuvent repartir le lundi tranquillement à Paris, en Espagne, où ils veulent, quoi. Et ça fait marcher l'économie locale, ça réserve des campings, des mobil-homes, des chambres d'hôtes, des hôtels, des Airbnb. Et à l'arrivée, quand vous jouez, c'est compliqué parce que vos seniors qui sont éducateurs au club, ils jouent, donc ils peuvent pas s'occuper des gamins. Ça fout un bazar pas possible. Donc ça, on a été entendu aussi sur ça, sur l'élaboration des calendriers. Et franchement, moi je trouve que ça se passe bien. Voilà. Au début, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de la méfiance, pas méchante, mais se dire qu'est-ce qu'ils nous veulent ceux-là ? Pourquoi ils se fédèrent ? Est-ce qu'ils sont en train de monter une liste ? Non. Enfin, moi je suis pas là-dedans. Non, pas du tout. C'est encore être au service des clubs, au service du jeu, au service du football et puis pouvoir se concerter et avancer ensemble.
Mais écoute, super. Merci. Laurent, c'est la partie la moins agréable de l'interview. Tu sais très bien de quoi on va parler. On va en parler 5 minutes parce que sinon, on pourrait en faire 2 heures et l'émission va finir à 20h ce soir, mais c'est pas le but.
Ouais, puis comme je suis pas trop bavard en plus. Ouais.
pour les gens qui le savent pas, tu as été suiveur des Girondins de Bordeaux pendant des années et tu fais encore une émission avec Alain Bondron, il me semble, sur Internet.
Ouais, et puis j'ai eu le bonheur de commenter aussi avec d'autres confrères les matchs des Girondins pour TV7 sur les 2 dernières saisons.
Exactement.
Voilà, on est 3, on tourne. Donc si les Girondins se maintiennent à ce niveau-là et si les contrats de télé sont reconduits, en principe on devrait remettre le bleu marine de chauffe pour commenter de nouveau les matchs. Mais oui, je suis toujours.
Et alors aujourd'hui nous sommes le 7 juillet 2026 et on ne sait toujours pas en quelle division vont jouer les Girondins de Bordeaux. Juste 30 secondes pour commencer, quel est ton avis là-dessus ?
C'est très difficile parce que effectivement, comme tu le dis, on ne sait pas en quelle division. Donc c'est pas la même chose si vous préparez une saison en régionale 1 ou bref, ça peut être départementale 1 aussi.
Oui.
Mais bon, on va pas aller jusque là. En nationale 2, enfin qui deviendra la nationale 1 ou en Ligue 3, rien à voir là encore en termes de structuration de club, rien à voir. Si c'est de la Ligue 3, vous rebasculez sur un statut professionnel avec centre de formation, voilà. Rien à voir au niveau de la possibilité de conserver vos joueurs et de la possibilité d'en faire signer d'autres, parce que forcément, les joueurs vont peut-être signer en National 1 ou en Ligue 3, mais ce ne sera pas les mêmes en Régional 1. Comment vous bossez ? Donc, moi, j'ai eu la possibilité de croiser Rio Mavuba il y a une quinzaine de jours. Je lui ai posé la question, je lui ai dit ça va, comment tu fais ? Il m'a dit écoute, on continue à travailler sur les dossiers de recrutement. On reprend d'ailleurs, c'est là, je crois, ces jours-ci.
C'est mercredi ou jeudi.
Voilà,
c'est mercredi, jeudi demain, pour le public.
Ça, demain ou après-demain. Donc voilà, au moins faire la préparation athlétique avec le groupe qui est déjà là et puis ceux qui sont arrivés. La préparation athlétique, ça peut être un socle commun. On peut travailler à peu près de la même façon en R1, en N1 ou en Ligue 3. C'est le foncier, c'est le cardio. Bon, on peut-être sur ces semaines-là, mais après, est-ce que les stages sont programmés pareil, les stages de cohésion et de perfectionnement, j'en sais rien, c'est très dur. C'est très dur, et psychologiquement, c'est très très dur, parce que vous dites que vous avez commencé quelque chose, et puis si ça se trouve, ça va s'arrêter dans quelques semaines. Donc, mais en même temps, ça fait 5 ans que c'est comme ça au Girondins.
Oui, c'est vrai aussi.
Donc, en pro ou en amateur, l'incertitude, elle est toujours là. Donc c'est franchement, c'est très dur. Et puis, il ne faut pas oublier non plus tous les suiveurs que nous sommes, soit professionnellement, soit en tant que supporters, soit les deux. C'est dur pour nous aussi parce que ce club, on l'aime, on l'a dans la peau et on ne sait toujours pas où ça va et ça fait mal. Quoi. Et ça fait 5 ans que nos meilleurs ennemis ne nous chambrent même plus et qu'ils ont de la compassion et qu'ils en sont même à nous dire vivement que les Girondins de Bordeaux reviennent. Même les Marseillais.
Et pour vous dire, je crois qu'on joue contre leur réserve en match de préparation.
Ben voilà, mais
ça me déprime un petit peu.
Que vivent les Girondins de Bordeaux, et que d'autres clubs ont vécu, Niort, même Libourne, enfin, tu peux pas le souhaiter même à ton pire ennemi dans le football, c'est pas possible.
Alors Laurent,
c'est tellement dur.
Juste une dernière question, je vais oser, tu vas me dire si tu peux répondre, parce que je sais que si ça doit redémarrer avec TV7, il y a peut-être des choses que tu ne peux pas dire, mais je sais que tu es honnête, donc tu vas me dire la vérité. Aujourd'hui, ton point de vue, et est-ce que tu trouves ça bizarre que les gens ne se soulèvent pas par rapport à la situation des Girondins de Bordeaux?
Alors, je trouve ça bizarre, oui et non, parce que je vais pas faire une réponse convenue ou de Gascon, mais je me disais, ça c'est sûr, alors on est bien d'accord, on prend aucune violence, quoi que ce soit,
Non.
mais je me disais, ce qui se passe là, enfin, je veux dire, à Marseille, ce serait jamais arrivé, puisque je parlais de Marseille, je vais rebondir dessus,
Oui.
ça serait jamais arrivé, ça aurait pas duré longtemps. Après, on aurait pu avoir des débordements aussi, et ça c'est, attention, il faut pas, ça je condamne à chaque fois, sauf que, ben, tranquille à Bordeaux, tranquille quoi. Ouais, c'est bien, on a, c'est bien, on n'a pas, tant pis. Mais non, non, à un moment donné, il va peut-être falloir les groupes de supporters qui ont beaucoup, beaucoup de voix dans les virages, mais ils en est peut-être aussi là, parce qu'on n'entend on entend pas. Alors c'est sûr, on ne sait pas où on va. Donc c'est compliqué de parler parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Mais non, 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 tranquille, il ne se passe rien en fait. Au niveau de la vox populiste, il ne se passe rien. Alors nous, journalistes, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, de temps en temps, on met la casquette de la neutralité, de l'impartialité un petit peu de côté, puis on dit, bah ouais, on est quand même tous supporters des Girondins, on aimerait bien qu'eux, mais au moins se faire entendre. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de prise de position, il n'y a rien. Alors, c'est aussi une année de Coupe du Monde, hein. On est
Oui.
focalisé sur autre chose, mais je trouve ça dommage, dommage qu'il n'y ait pas plus de mobilisation. Voilà, il y a une direction actuelle qui a fait peut-être des choses un peu meilleures ces derniers mois, mais qui est toujours fragilisé par l'incertitude et par je sais pas trop ce qui se passe, par la possibilité d'avoir des capitaux ou pas, mais enfin je sais que les directions précédentes, elles ont bénéficié de moins de mansuétude vis-à-vis des supporters girondins, quoi. Voilà, on se souvient des longues épées, etc.
J'allais en
Même
venir.
si on a ben ouais, même si on a failli aller au clash, et encore une fois, je le dis, la violence, ça résout rien. Là, on n'entend pas certains supporters, quoi, et ça, je trouve ça dommage. Voilà.
C'est vrai que Laurent, on peut en témoigner, on s'est vu tous les deux à certains rassemblements. Et là,
Ouais.
avec tout ce qui se passe, je suis un peu étonné. Mais après, je suis assez
Je suis d'accord
d'accord.
avec toi.
Étant donné qu'on ne sait pas trop où on va, est-ce qu'on n'a pas peur du trou final, si je puis dire?
Peut-être après, il faut pas, tu l'as dit, on s'est vu sur des actions de mobilisation ou autre, donc le peuple bordelais est là quand même.
Oui.
Le peuple bordelais, c'est pas que non plus les supporters bordelais encartés au stade d'un côté ou de
Exactement,
l'autre des virages, quoi.
c'est ce que j'aimerais
Voilà.
dire aux gens aussi, parce que on me dit, je lis partout et que ouais, le virage sud, il se bouge pas, mais il n'y a pas que qui existe. Enfin, c'est mon point de vue.
Voilà, non, non, c'est pour ça que je fais bien la différence. Après, ce sont ceux qui ont le pouvoir de manifester le plus important.
Et de
Mais
ramener de la masse, peut-être, oui.
voilà, donc c'est et visuellement et médiatiquement,
Exactement.
forcément, quand il y a une action menée par des groupes là aussi structurés, ça porte plus. Mais les Girondins de Bordeaux, la communauté, elle a su se mobiliser à travers différentes associations, différentes manifestations. On l'a vu avec ADN Girondins notamment. On l'a vu avec plein de choses, avec Préservons l'Escure, avec bon voilà. Il y a et puis des initiatives aussi un petit peu privées ou un peu plus. Éclaté, si je puis dire, dans le département, dans la région. Mais il y a une base, il y a un socle très très important de Girondins sur la planète, de supporters Girondins. Et avec Internet, alors il y a à boire, à manger, il y a des choses à trier,
Oui.
mais le peuple bordelais se mobilise. Je veux dire, on l'a vu aussi il y a 2 ans à l'Escure avec Gino Forte,
Oui.
notamment, et voilà, et bon, qui avait ses collègues qui avaient mis en place une manifestation, enfin voilà, l'âme du club n'est pas morte, quoi.
Non. Mais écoute, merci Laurent pour cet entretien enrichissant.
Ben, merci à vous.
Malgré tes nombreuses occupations, je vais te souhaiter un bel été.
Merci beaucoup, ben, à la plage.
Oui, et surtout toi
C'est
qui es
pas
à
très loin de la
côté en
maison, ça
plus.
va,
Donc,
ouais.
et au plaisir de se revoir fin août, on l'espère, au Matmut Atlantique.
Ouais, ben ouais, avec grand plaisir et de bonnes vacances à toi et à vous tous aussi. Et puis, allez Bordeaux.
Et puis allez Bordeaux, merci Laurent.
À très vite.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Bah écoutez, super entretien, on va enchaîner direct hein, parce qu'on a grappillé un quart d'heure de plus avec Laurent Brun qui est très bavard. Mais on a vu que le club de Médoc Océan fonctionnait bien. On a aussi vu que le club de l'Amicale des présidents de Gironde fonctionnait. Et après d'avoir ce regard sur les Girondins de Bordeaux, c'est toujours intéressant. On a vu que malgré sa casquette de journaliste à TV7, il ose donner son point de vue. Pour moi, ça reste intéressant de discuter avec ces gens-là. Maintenant, une figure du football régional, il a même, je crois, joué en Ligue 2 avec Jean-Marc Furlan, l'entraîneur, Roland Becca. On est en train de composer le numéro de téléphone. J'espère que Roland va nous répondre et qu'il va être avec nous d'ici quelques instants pour les 25 dernières minutes de l'émission. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que du coup, il est entraîneur de Libourne Association 2024. Et donc, on devrait l'avoir avec nous. Roland, bonsoir.
Bonsoir Alexis.
Tout d'abord, comment vas-tu?
Ça va, impeccable, en forme. Et toi?
Mais écoute, ça va? Est-ce qu'avec la chaleur, tu supportes? Ça va? Ça
Oui, ça va, ça va, ça va.
Dis-moi, je souhaitais t'avoir avant la fin de saison parce que on t'avait eu en début de saison et tu nous parlais de l'équipe régionale 3 qui avait fait un bon recrutement et qui souhaitait accéder à la régionale 2. Vous avez fait une saison magnifique en étant invaincu en championnat. Est-ce que tu peux revenir avec nous là-dessus?
Bien sûr.
Alors du coup, en championnat, ça s'est bien passé. Je crois qu'il y a eu 20 victoires, c'est ça?
Ouais, on a fait 20 victoires, 2 matchs nuls, 94 buts marqués, seulement 14 encaissés.
Oui.
Bon, c'est une année exceptionnelle, hein, c'est un parcours presque parfait. Comme on disait souvent, et à la fin aux joueurs, on leur disait il faut le, comment dire, le noter quelque part parce que on est quand même des amateurs et c'est tellement dur de gagner un match déjà. Alors gagner plusieurs matchs, c'est encore plus compliqué. Et, bon, par contre, monter et finir invaincu, c'est exceptionnel. Et voilà quoi, ça reste une saison pour nous. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais voilà, quand le foot, on connaît, c'est tellement difficile de monter. Alors, cette saison-là, ça a été vraiment exceptionnel.
Avant de revenir sur les seniors, on t'avait eu au mois de novembre il y a, 2024, au moment où l'association Libon 2024 s'est créée. Comment ça se passe depuis un an et demi, 2 ans au club?
Franchement, ça se passe très bien. Hein. Je pense que la dernière fois qu'on s'est eu, nous, on s'est arrêté en U16.
Oui.
Et ben, 2 ans après, ça y est, on a complété toutes les catégories. On a nos U14, U15, U16, U17 et U18 en Régional 1. Il y a juste les U15 qui sont en Régional 2 parce qu'ils ont fini deuxième.
D'accord.
Mais en soi, c'est pas très grave. Il y a des années, parfois, on peut pas tout réussir. Et on est pratiquement à 500 licenciés. L'équipe première qui l'accède en R2. L'équipe réserve qui est montée en D2 et l'équipe féminine qui est montée en Régional 2.
D'accord.
Voilà, je pense que si on revient 2 ans en arrière, on ne peut pas oublier non plus les jeunes s'arrêtaient en U16, l'équipe première était en D1, l'équipe B était en D3 et l'équipe féminine était en D1. Et voici 20 mois plus tard, 24 mois plus tard, 2 ans après, ben, l'équipe première est en R2, les jeunes sont on a tous les jeunes jusqu'en U18. Maintenant, je pense que le club est reparti, on va dire, parce que nous, on le sent aussi en termes de mutés.
Oui.
Voilà, donc l'année prochaine, il y aura tous les 18 qui vont monter en senior. Et
D'accord.
je pense que là, je pense que, il me semble qu'on avait discuté, il me semble qu'on avait évoqué ce cas-là, et j'avais dit que pour essayer d'effacer, même si ça ne s'effacera pas, on ne va pas y rester non plus là-dessus tout le temps, mais il faut à peu près 3 ans, quand vous avez un dépôt de bilan,
Oui.
parce qu'il y a eu quand même 50 départs et 50 arrivées, il faut à peu près 3 ans pour essayer d'effacer, on va dire, comment dire, pas effacer l'histoire, mais avoir, on va dire, des jeunes qui puissent, même si on a fait monter cette année avec de doubles surclassements et l'année dernière, l'année prochaine, il y aura à peu près une vingtaine de jeunes qui vont monter en senior. Bien évidemment que moi, je vais en prendre dans l'effectif les meilleurs, du moins ceux qui ont le niveau dans l'instant T, et puis les autres, ceux qui souhaitent continuer au club, les mettre avec l'équipe réserve.
Justement, l'équipe réserve est en quoi déjà, Roland?
Ils sont montés en division 2.
D'accord. Oui, ça peut être un niveau intéressant quand même pour certains jeunes, il faut pas le négliger, peut-être.
Ah non, 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 puisque dès cette année, l'équipe réserve, on va essayer de. Alors, tout le monde veut monter, c'est compliqué, mais si on arrive à monter cette année ou l'année prochaine, arriver en division 1, je pense même en division 2 pour des jeunes joueurs, parce que tout le
Oui.
monde n'est pas prêt dans le monde senior. Et ça peut être un tremplin pour le jeune, voilà, de passer par l'équipe réserve, et puis les meilleurs, ils basculeront avec moi.
Oui, ce qui paraît logique. Roland, on est donc au mois de juillet. Comment se prépare l'intersaison?
Oh ben, super bien, nous on avait fini le dernier match, nous on était monté déjà le 11 avril,
Oui.
ce qui permet quand même, quand tu montes un mois et demi avant la fin de saison, ce qui permet de, voilà, tout ce qui est entretien avec les joueurs, faire le point avec qui reste, qui s'en va, préparer la saison, préparer les matchs amicaux, le recrutement. Nous on a fini le dernier match à Chancelade le 24 mai, et depuis le 24 mai il n'y a plus eu une seule séance, parce qu'il a mis tout le monde au repos, parce que la saison a été longue quand même, même si on est monté.
D'accord.
Et puis on est resté, comme je t'avais annoncé il y a 2 ans, que avec les anciens. Alors, que avec les anciens, on ferme la porte à personne, mais l'objectif quand même c'est faire jouer des jeunes du cru. Et notamment le dernier match, il y avait un U17 qui a joué, qui a marqué,
D'accord.
Lucas Grelier, et on essaye de faire monter tous les ans 2-3 jeunes joueurs du club en équipe première, et puis on va avancer avec ça. Et puis cette année, on est sur 4-5 recrutements des anciens joueurs qui sont passés, qui étaient au club, qui étaient partis et qui reviennent.
Donc là, tu es en train de nous dire que tu vas garder quand même une ossature de ton équipe R3 pour jouer en R2.
Ouais, tout le monde est resté, j'ai gardé tout le monde.
D'accord.
Tout le monde est partant, il n'y a aucun départ. Donc je ne vois pas. Voilà, c'est une forme de respect aussi. Alors on le sait tous que dans un effectif, souvent, il y a certains joueurs que peut-être on dit, ouais, mais lui, il n'a peut-être pas le niveau. Ou peut-être, non, non, ils sont là avec nous depuis 2 ans, et on va travailler, on va essayer de. Voilà, de les garder au moins encore la saison prochaine, et puis on verra comment ils vont évoluer, mais c'est aussi une forme de respect, parce qu'ils étaient là en D1, ils sont montés en R3, ils sont remontés en R2, c'est pas parce qu'ils montent en R2, alors on sait aussi bien que le foot, c'est pas non plus, c'est pas parce qu'ils ont été là depuis 2 ans qu'il faut les garder, mais à partir du moment qu'ils ne baissent pas les niveaux à l'entraînement et qu'ils ont été. Depuis quand on a rempli les clubs, ils étaient là. C'est la moindre des choses, c'est respecter aussi les joueurs humains. Et pourquoi les, comment dire, séparer d'eux alors qu'ils étaient là depuis 2 ans. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de garder tout le monde.
Et du coup, est-ce que tu peux nous annoncer le retour des anciens, comme tu as dit, ou pas? Ou ça reste secret à Libourne?
Ah non, non, il n'y a rien de secret. De toute façon, il y avait Kevin Terlet qui était à Cachan et qui était revenu à Senez-les-Pils une saison, qui revient au club, qui sera aussi en charge il sera responsable de l'édition 11. Il y a Quentin Dussault qui était au club, qui a connu les montées de R1, N3, N3, N2, et qui était parti à Saint-Émilion. Il y a Baptiste Champagne aussi qui arrive de Saint-Émilion, qui était au club, qui était parti pendant 4 ans avec la R2. Il y a Clément Demasson, qui revient il sera éducateur au club, il a 35 ans, mais qui revient aussi boucler la boucle une dernière saison, voire une deuxième avec nous. Et là, on est déjà à 4. Et après, il y a un gardien à Sainte-Choube, qui avait arrêté le foot, qui était à Arlac, mais lui, il n'est pas muté, donc il vient épauler Jonathan Joubert. Et pour l'instant, on est à 5. J'ai droit encore 2 mutés, mais pour l'instant, voilà, le recrutement est pratiquement fini, sauf s'il y a un ou deux joueurs qui se présentent d'ici mois d'août, mais le recrutement est indéfini, quoi.
On sait que certains clubs, avant le tirage des poules de championnat, ont des préférences. Est-ce que c'est le cas à Libourne?
Préférence 2.
D'être plutôt dans la poule ouest ou autre?
Non, aucune
Ok.
préférence, tant que ça reste du foot. De toute façon, quand plus vous montez des
Ou
niveaux,
peut-être
plus
pour
vous
éviter les
avez.
kilomètres, non, je sais pas.
Ah, mais c'est sûr que oui, ce côté-là, c'est vrai que si on est dans une poule où il y a Eribiroco, Pau, Anglette, Bayonne,
oui.
C'est vrai que moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mon président, il va préférer jouer à côté, ça c'est sûr.
Oui.
Moi, sincèrement, ça ne me dérange pas parce que je sais comment ça se passe. Plus vous montez des niveaux, et moins vous allez jouer sur à 10-15 km, quoi.
Aujourd'hui, Roland, donc on peut dire que Livourne est revenu dans le football aquitain et régional. Comment tu vois le football régional? Tu nous avais déjà dit à peu près ton avis il y a 2 ans, mais est-ce que tu as vu l'évolution depuis 2 ans?
Ouais, après, c'est...
Sans parler de la chute des Girondins de Bordeaux, attention.
Ouais, bon après, ça, c'est quand même... On en avait discuté, je pense à ce moment c'est compliqué pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de clubs. L'ère de la guerre, ça reste l'argent. Voilà, après, chacun est différent, chacun travaille à sa manière, mais je pense qu'à un moment donné, moi, ce que je... Comment dire, Cestas, ils ont fait une bonne saison, ils arrivent à se maintenir. Lège aussi, à Cachon, il reste quoi, 3 clubs en N3. En N2, on n'a pratiquement plus de club. Bergerac, ils n'ont pas eu la possibilité de monter. Il y a Trélissac qui revient à N3, qui ont fait une grosse saison. Stade Bordelais, ils n'ont pas réussi à monter cette année. Je pense que l'année prochaine, ils seront assez armés. Je pense qu'il y a, en fait, parfois, il y a des passages. Il y a 15 ans, de ça, il y avait beaucoup de clubs qui étaient en CFA, CFA 2, division d'honneur. Là, est-ce qu'on ne paye pas le pot cassé, comme on avait dit auparavant, de ne pas donner autant de la chance aux jeunes. En tout cas, nous, à Libourne, c'est ce qu'on veut mettre en place.
D'accord.
Et, peut-être ça mettra plus de temps, mais est-ce que c'est pas plus mal? Mais bon, c'est sûr qu'arrive un certain moment... on dit souvent, pour faire venir des joueurs qui ont joué au-dessus, il faut de l'argent. Est-ce que ça vaut le coup de faire venir des joueurs pour faire monter les niveaux? Oui, si je te dis non, ça serait mentir. Après, si vous n'avez pas le budget, est-ce que ça vaut le coup? Je dirais non. Voilà. Nous, personnellement...
Ne pas avoir la folie des grandeurs, c'est ce que tu veux dire?
Oui, voilà. Nous, on peut faire un Ligue 1, peut-être, s'il faut rester 2-3 ans en R2 et définir sur le compte équilibre parfait et monter avec cette équipe-là, travailler, une fois qu'on en est R1, mais continuer dans cet élan-là. Peut-être qu'un jour, on arrivera à monter en R3, en N3, pardon, et si on monte en R3, ben, on commence à vouloir prendre des joueurs, payer des joueurs alors que vous n'avez pas le budget, ben, c'est sûr qu'en fin de saison, vous allez tout droit. Et je pense que le souci est là. Je pense qu'il faut faire avec ses moyens. Voilà, il ne faut pas avoir honte de dire, ben voilà, on est peut-être Libourne, on est peut-être un autre club, mais s'il faut rester 10 ans en R1, est-ce que c'est grave? Bon, je pense que non, mais par contre, si vous restez 10 ans et vous faites jouer vos jeunes, ben vous mettez en évidence votre formation.
Et le travail du club dans sa globalité.
Le travail du club, voilà, c'est un choix, en fait, et moi, je critique aucun choix. Après, personnellement, avec Simon, avec le président et les éducateurs, c'est sûr que c'est un plaisir de voir une équipe première aller dans 4-5 ans. Si on arrive à voir le U15, le U16 de cette année dans 4-5 ans, ben forcément, il y a beaucoup de générations qui vont se... Alors, pas tous, mais s'il y en a un ou deux par génération qui se retrouvent en équipe première, bon, demain, qu'ils soient Roland Bécard ou pas les coachs de l'équipe première, peu importe qu'ils soient les coachs, ben vous savez que l'équipe, en fait, il y a une vraie identitaire du club, du jeune du cru. Et je trouve bien parce que vous mettez en valeur, en fait, pas spécialement le travail du coach de l'équipe première, mais le travail de tous les éducateurs, c'est-à-dire de l'école de foot jusqu'en équipe première.
D'accord. Roland, pour clôturer l'interview, est-ce que tu peux nous dire la date de reprise de Libourne?
Nous, on reprend le 20 juillet.
D'accord. Et donc... vu qu'on est dans le monde amateur, tu l'as dit, mais dans l'idée, tu as convoqué combien de joueurs?
J'ai 24.
D'accord. Pour le 20 juillet, tu as 24 joueurs.
Ouais, tout le monde est là à la reprise, donc ils sont tous là.
D'accord.
Faire une bonne préparation, travailler, se préparer. On a 7 matchs amicaux. Et après, ben, on attendra le premier match officiel qui sera, je pense, le 28 août ou le 29 août en Coupe de France.
Oui.
Et puis voilà, essayer de finir toujours comme cette année dans les jeux à la montée. Après, ce qu'on sait qu'il y aura une équipe qu'elle va monter, l'équipe qu'elle montera, comme je l'ai dit souvent, c'est l'équipe qui sera la plus constante jusqu'à la fin de saison.
Justement, tu parlais des niveaux, juste. Est-ce que tu trouves que qu'il n'y ait que le premier qui monte, c'est pas un petit peu rageant ou c'est comme ça et on fait pas autrement?
À partir du moment que vous avez 6 poules et qu'il y a 6 montées, c'est sûr que vous en avez à avoir qu'une montée. Après, ils en ont déjà parlé, je crois, à la dernière réunion, ils voulaient supprimer des poules de la R3 pour avoir moins de poules de R2 et pourquoi pas faire monter 2 équipes. C'est sûr que si vous faites monter 2 équipes de R2, ça donne l'opportunité à d'autres équipes de monter. Mais une équipe, si vous trouvez par exemple 5-6 équipes qui prétendent besoin de la monter, à la fin il n'y en aura qu'une. Ça peut faire 4 équipes et ils peuvent être déçus de ne pas monter. D'où il faut rester cohérent et constant jusqu'à la fin de saison.
D'accord, mais écoute, merci Roland d'avoir accepté notre invitation. On va te souhaiter de bonnes fins de vacances quand même, parce que mine
de rien, Alexis, toi aussi, et puis j'espère bientôt au bord de terrain.
Eh bien, écoute, avec plaisir, et puis on se dit à très vite.
À très vite, Alexis.
Ciao, bye. Bye. Mais écoutez, voilà, Nico, est-ce que tu peux prendre le micro 2 minutes, parce qu'on va avoir un échange tous les deux. Parce que j'aime bien discuter avec toi.
Je suis au journal ce midi, mais je rebonjour.
Eh oui, il est partout, Nico. Alors, tout d'abord, je te remercie d'avoir fait la technique avec moi.
Avec plaisir.
Deuxième chose, on va en parler pendant 15 jours, mais j'espère que le 21 juillet, tu seras même autour du micro avec nous.
Normalement, je serai là.
Ah, normalement, il va nous dire de belles choses autour du micro, parce que c'est lui le grand orchestre de cette dernière émission.
Oui, normalement, je ne parle pas dans cette émission, Alexis.
Oui, mais ce jour-là, tu parleras comme tu parles avec moi là, tu vois, c'est fabuleux.
D'accord.
Autre chose, Nicolas, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Johan, qui est un fervent auditeur de cette émission.
Joyeux anniversaire, Johan, merci de nous écouter.
Eh oui, toujours.
Et presque, c'est bientôt l'anniversaire d'Odo Radio aussi.
Eh oui, tu peux rappeler la date d'ailleurs.
Le 10 juillet, c'est dans
3 jours. Vendredi.
Vendredi.
Alors, est-ce qu'il y aura des cotillons partout et des confettis partout dans Odo Radio ou pas ?
Ça va être compliqué.
D'accord.
On fera les 30 ans.
Ah, tu vois, Odo Radio a presque mon âge.
Voilà, là c'est 29, mais l'année prochaine on fera une fête, je pense, on fera quelque chose.
Tu dis ça pour que je revienne pour les
30
voilà, ans,
c'est ça ? J'espère que tu seras là.
Exactement. Ben écoute, merci Nico, merci de nous avoir suivis. Et puis, comme vous le savez, mardi prochain c'est le 14 juillet, donc on sera pas là pour cause de fête nationale, enfin pour cause. Pour raison de fête nationale.
Oui, si c'est encore en vigueur, avec ces fortes chaleurs.
Les canicules, mais dans tous les cas, nous ne serons pas là.
Voilà.
Et faites pas de feu d'artifice autour de chez vous.
Eh oui, parce que quand les canicules s'emballent...
Oui, je ne dirai pas la suite, mais vous l'avez compris, chers auditeurs. Donc voilà, nous on se donne rendez-vous le 21 juillet. Le planning de l'émission, et le programme de l'émission est en train de s'établir. Nico est en train de m'aider à mettre tout ça dans l'ordre.
Oui.
Parce qu'il y aura les surprises, du monde autour du micro, du monde au téléphone. J'espère que le standard va bien fonctionner.
Oui.
Et on est en train de négocier pour avoir une petite rallonge au niveau du temps. Donc voilà, je vous dis merci et puis je vous dis au 21 juillet avec grand plaisir. Merci Nico.
La bise, à la prochaine.
Au revoir.